envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Alors ce matin, elle a la tête dans les nuages, comme d'habitude. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Florian.
Bien réveillé.
Oui. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'air de jeu. On va faire la pluie et le beau temps. La météo, eh bien, elle est souvent au centre des conversations, dans les expressions également. Et puis on a un spécialiste en la matière, c'est Frédéric Glasset, qui est météorologue et directeur adjoint de Météo News. Météo News avec qui nous collaborons étroitement pour vous donner les prévisions météo. Bonjour Frédéric Glasset.
Bonjour.
Et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu cette science en fait en quelques mots ?
Alors déjà, c'est une science qui est inexacte. Je le dis d'entrée, hein, mais non, mais c'est important de comprendre. Il y a des sciences qui sont exactes et la météo n'en est pas. Malgré les progrès de technologie, les modèles de plus en plus puissants, etc., etc., c'est une science inexacte. Je pense qu'on a toujours voulu comprendre comment fonctionnait le temps, puisqu'il a des incidences actuellement, mais il en a aussi eu dans l'histoire, l'agriculture, les déplacements de population. Le phénomène de la météorologie est très important. Il fallait de la pluie pour faire pousser les cultures. Un orage peut tout de suite dévaster justement une culture. Et de tout temps, on a voulu comprendre comment ça fonctionnait. Parmi les époques, des instruments ou déjà des choses un peu rudimentaires pour savoir, pour essayer de mesurer certaines choses. Alors un pluviomètre, pour savoir combien il a plu, c'est assez facile. Vous prenez une bassine ou peut-être il y a 2000 ans en arrière une cruche et puis vous pouviez voir combien on avait de millimètres dedans pour voir. Voilà, mais pour la température, c'est un petit peu plus compliqué. C'est arrivé aussi beaucoup plus tard. Apprendre aussi que tout d'un coup, passer une température, même si on ne savait pas, on n'avait pas mesuré la température, pourquoi par un matin très froid, l'eau se transformait en glace. L'intérêt remonte très très loin, mais c'est vrai que les progrès, ou ce qu'on appelle la météorologie moderne, est une science qui est très récente, il y a une 100, 150 ans à peu près, donc c'est beaucoup plus jeune que d'autres sciences comme les mathématiques qui peuvent remonter à 2-3 000 ans en arrière.
Et on verra de quelle façon ça a beaucoup évolué également. Mais tout de suite, on va passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
Oui, ça c'est de la science de la radio. On presse un bouton et ça fonctionne.
L'air de jeu, le défi.
Vous le savez, le défi, ce sont des photos que vous avez dans votre portable ou que vous pouvez nous envoyer par WhatsApp. Et à midi moins le quart, notre invité Frédéric Glasset choisira la photo pour laquelle il aura eu un coup de cœur. Vous allez nous dévoiler le thème de ce défi photo d'aujourd'hui, Frédéric Glasset.
Je pense que beaucoup en auront. La plus belle photo météo.
Ouais, ça veut dire que si vous avez des belles photos dans votre téléphone, voilà. D'un beau coucher de soleil, pas forcément d'une tempête.
Hein, coucher de soleil, ou peut-être éclair, ou peut-être arc-en-ciel, ou phénomène météo particulier, allez-y. Parce que ça, tout le monde en a, et on risque d'en recevoir pas mal. Donc le choix sera compliqué, peut-être.
Ouais, on verra ça. Vous alors, envoyez les photos au 079
809 20 20, et faites preuve d'imagination.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Frédéric Glasset, météorologue et directeur adjoint de Météo News, est avec nous ce matin. Ça fait depuis plus de 26 ans que vous êtes dans ce métier. En quoi consiste concrètement votre travail, Frédéric ?
Alors, c'est vrai que c'est un métier qui, en 26 ans, a beaucoup changé. Quand j'ai commencé en 1997, c'était un petit peu le début de l'ère d'Internet. Ça veut dire qu'à l'époque, on accédait déjà à un... On était grosso modo à peu près les seuls à pouvoir accéder aux radars météo, aux images satellites, etc. Puisque comme Internet débutait, que ce sont quand même des choses, des images qui prennent beaucoup de place, la capacité d'Internet n'était pas suffisante à l'époque pour pouvoir avoir ces choses-là. Je me rappellerai toujours une anecdote. En 1999, quand on a la fête des vignerons à Vevey, on voit justement un front orageux monstrueux sur la France, et on savait que justement par la trajectoire qui suivait, il allait venir sur la Suisse romande et tôt ou tard toucher Vevey. Et à ce moment-là, on se souvient tous, ça avait surpris beaucoup de monde, il faisait grand beau sur Vevey quand une annonce tombe en disant « la représentation de ce soir n'aura pas lieu ». On se dit « mais c'est pas possible, il fait beau, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Puis c'était, pour les gens, ça paraissait un peu d'être quelque chose de miraculeux, parce que 2 heures après, effectivement, il y a ce front rageux qui arrive et qui ravage un peu tout sur son passage. Or maintenant, en 2023, toute cette data, ces données, sont accessibles aussi à tout le monde, via une app, sur Internet, etc. Donc le métier a beaucoup changé. De ce point de vue-là, les modèles sont de plus en plus performants. Donc le rôle du météorologue est beaucoup moins dans l'analyse météorologique, comme ça se faisait encore il y a 20-25 ans, quand on n'avait pas tous ces moyens-là, mais beaucoup plus dans la synthèse, puisqu'on a plus de modèles à disposition, donc il faut choisir lequel sera le meilleur, etc. Dans la vulgarisation et l'explication. Parce que trop d'infos tue l'info. Mm-hmm. Et c'est plus simple, ou c'était plus simple à l'époque de pouvoir donner un scénario, expliquer une météo à ceux qui n'en avaient pas accès, que maintenant d'expliquer un scénario à quelqu'un qui a déjà peut-être vu 3 ou 4 applications ou 4 scénarios différents sur son smartphone, et puis lui dire « non mais attention, fais gaffe, c'est plutôt ce scénario-ci qui prévaudra ». Donc de ce point de vue-là, le métier a quand même passablement changé pour le prévisionniste.
Sans compter les réseaux sociaux où il y a plein de météorologues
amateurs
en profusion.
Et puis en plus, qui n'ont entre guillemets que ça à faire, qui passent leur journée là-dessus. Un professionnel de la météo qui a à peu près, comme nous, plus d'une centaine de partenaires aussi divers et variés, comme les radios RTN, RJB, RFJ, mais aussi l'entretien des routes nationales, des routes cantonales, les services de pompiers, les assurances, etc. C'est très, très diversifié et vous ne pouvez pas passer votre journée sur Facebook à suivre chaque cellule orageuse en disant « attention, si vous habitez ici, voilà quoi ».
Ça va cogner.
Voilà, c'est ça.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Lorsque l'on parle de la météo, Frédéric Glacet, eh bien, on repense bien évidemment à cet événement qui a secoué les montagnes neuchâteloises le 24 juillet dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on pouvait prévoir aussi cet événement ou pas du tout?
Alors, première chose, la potentialité orageuse pour ce jour-là était clairement identifiée. D'ailleurs, si on prend sur nos propres alertes, on était en alerte 4 sur 5 pour des orages potentiellement violents. Il y avait les alertes de la Confédération, des préalertes météo suisse qui étaient en orage niveau 3. Alors, ils ont 4 niveaux d'orage. Donc, ce jour-là, effectivement, il pouvait se passer quelque chose de puissant. Mmh. Voilà, première chose. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, pour l'événement de la Chaux-de-Fonds, c'est ce qu'on appelle une supercellule.
C'est-à-dire ?
C'est une cellule orageuse. Alors, on appelle une supercellule parce que c'est le type de cellules orageuses les plus puissantes ou les plus violentes qu'on puisse avoir. Elles sont généralement assez massives. Mais c'est une seule cellule, c'est pas une série ou un front, une ligne orageuse, c'est une cellule. Et cette supercellule, on l'a détectée, si je reprends sur mon... Voilà, à 10h30, elle prend naissance du côté de Besançon, à peu près. 10h30, on voit que c'est une petite cellule, d'abord, puis ensuite elle commence à prendre de l'ampleur. Puis en prenant de l'ampleur, elle tourne aussi sur elle-même, et puis ensuite elle prend la trajectoire de la Suisse, et à 11h20, à la sortie du Val de Morteau, justement, elle prend la direction de la Chaux-de-Fonds. C'est là qu'elle atteint le maximum de son intensité. Alors là, justement, notre système a détecté justement la potentialité d'un orage violent du niveau maximum. Mais nous, dans l'observation, sur la base des outils qu'on a, étant donné qu'en live, on n'a pas de station météo tous les 50 mètres, cette cellule, l'intensité, on la détecte à la fois sur les impacts de foudre, sur l'intensité au radar. Alors c'est vrai qu'au radar, elle avait une intensité extrême, mais en regardant uniquement cette image, on était incapable de dire si cet orage-là allait nous donner un orage de grêle avec de gros grêlons de 4-5 cm de diamètre, ou alors, dans le cas-là particulier, il n'y a quasiment pas eu de grêle, ou peu en tout cas, mais c'est surtout le vent qui a été l'élément le plus important. Donc, cette prévision de trajectoire pour dire, oui, à telle heure, il y a une grosse cellule puissante qui touche la chaux de fond, c'était prévu. Par contre, ce qui ne l'était pas, c'est de savoir qui, parmi tous ces ingrédients à l'intérieur d'une violente cellule orageuse, de savoir que c'était le vent qui allait être l'élément clé, dominateur de tout ça. Ça, c'était malheureusement pas prévu dans ce sens-là, quoi.
Non, ça n'a rien à voir avec un mini ouragan, parce qu'il semblerait que ça tourne comme ça.
Alors, une supercellule tourne sur elle-même, mais c'est pas ce mouvement rotatif qui fait que ça amène ces dégâts-là. On a fait une analyse, effectivement, parce que vu l'ampleur des dégâts et la vitesse du vent qui a été mesurée aux éplatures à 213 km/h, c'est vrai que ça pourrait, à la base, se dire, on parlait d'une tornade. Ensuite, sur la base des photos et des vidéos qu'on nous a mis à disposition, on peut savoir si on parle de micro-rafale. C'est pas parce que c'est micro que c'est pas...
Oui, que c'est pas grand.
C'est concentré, on va dire ça.
Voilà. Le micro-rafale, en fait, c'est rafales de vent qui descendent de la cellule orageuse et qui se répartissent de chaque côté de la cellule de manière extrêmement brutale. Et elles peuvent souffler, effectivement, à de très, très fortes vitesses, à plus de 200 km/h. Ou alors, si c'est une tornade, où la tornade, on a bien cette colonne et ce mouvement rotatif. Sur les vidéos qu'on voit, on voit un vent plutôt horizontal. Et puis, dans l'analyse des arbres qui ont été couchés, on permet de bien distinguer, de savoir si c'est plutôt type tornade ou plutôt type micro-rafale, puisque les arbres ne se couchent pas de la même manière dans les deux cas. Donc là, en l'occurrence, sur la base de tout ce qu'on a pu voir, c'est bien d'une micro-rafale, le mot anglais « outburst », qu'il s'agit. Mais bon, ça fait aussi beaucoup de dégâts, parce qu'une tornade, peut-être, aurait touché qu'une petite partie assez confinée aussi. Là, quand même un couloir qui est quand même relativement important. Et c'est vraiment, dans l'analyse de la cellule orageuse, malheureusement, c'est vraiment entre la région du Crédulocle et sur l'entrée de la ville de la Chaux-de-Fonds que c'est là qu'elle atteint sa pleine puissance. Une fois sortie de la Chaux-de-Fonds, je ne veux pas dire qu'elle se désactive, mais elle perd vite en intensité, de puissance, etc. C'est pour ça que quand on prolonge la trajectoire, elle est partie ensuite vers le Jura-Bernois. À 11h45, la cellule était sur Tramelan, mais à Tramelan, on n'a pas eu de rafale exceptionnelle, on n'a pas eu de dégâts non plus majeurs, parce que, voilà, c'est, à un moment donné, ça s'est concentré à un endroit, et c'est un endroit fortement densément peuplé, avec les conséquences qu'on a. Et je pense que les 213 au Crédulocle, vous avez 180 à l'entrée en ville, puis ensuite ça décline en traversant la ville. J'imagine que si on avait dépassé les 200 en ville de la Chaux-de-Fonds, l'ampleur aurait été beaucoup plus catastrophique. Ça, c'est certain, quoi.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On parle beaucoup ces temps-ci du réchauffement climatique. Est-ce que ces phénomènes dont on a évoqué, par exemple celui du 24 juillet dernier, est-ce que ça a vraiment un rapport avec ce réchauffement climatique?
Alors, ça n'a pas de rapport directement. Ce genre d'intempéries se sont toujours produites dans le passé, même à des périodes où le climat était beaucoup plus froid. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de... on ne peut pas faire un lien aussi rapide. Par rapport aux ouragans, aux cyclones, on s'est posé aussi la question, parce qu'un climat qui est plus chaud à l'échelle globale implique aussi que les mers ou les océans sont plus chauds. Apparemment, sur le nombre, on n'aurait pas plus en nombre d'ouragans ou de ces cyclones, mais alors pour les ouragans, ils pourraient être potentiellement plus forts parce qu'il y a plus d'énergie à disposition. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Acapulco, où une simple tempête tropicale est devenue en l'espace de 2-3 jours un ouragan de catégorie 5. Et là, ça a déjoué aussi les pronostics des modèles qui n'avaient pas vu ce genre de choses. Mais par contre, pour les phénomènes type orage qu'on a chez nous, ça n'a pas de lien direct. Un orage, c'est simplement peut se produire dans des conditions météo particulières. L'orage joue beaucoup plus sur les contrastes de masse d'air, entre les conflits de masse d'air, entre l'air froid qui vient des pôles et l'air chaud qui vient d'Afrique du Nord. Je dirais même peut-être qu'à contrario, avec les conséquences du climat qui se réchauffe chez nous, c'est les pôles ou les régions polaires qui se réchauffent beaucoup plus que les régions subtropicales. Ça veut dire qu'à terme, on diminuerait ce contraste. Et ce contraste qui est diminué, ça pourrait aussi avoir une incidence dans le fait que les tempêtes type Lothar, Vivienne et ce genre de choses ne sont pas apparemment appelées à devenir beaucoup plus fortes et beaucoup plus nombreuses parce que justement, on a moins ce contraste entre les régions polaires et les régions subtropicales. Donc, le réchauffement climatique, il est là, il est présent, on l'observe surtout sur la température qui ne cesse d'augmenter, sur le fait qu'on ait, alors, en Suisse, des étés de plus en plus chauds. Mais aussi de plus en plus sec.
Oui.
Donc, ce qui s'est passé en 2021, ces phénomènes pluvieux orageux, ces inondations qu'on a connues, ne sont pas en lien direct avec le réchauffement climatique, puisqu'au contraire, c'est pas du tout ce qu'on attend durant un été. Un été labellisé réchauffement climatique, c'est l'été qu'on a connu cette année, avec de longues périodes sèches, parfois un orage par-ci, par-là, mais pas un événement qui va vous ramener pendant 2 jours et demi des pluies abondantes ou ce genre de choses. Ça peut toujours arriver. Il faut comprendre qu'en météo, il y a la règle et il y a aussi les exceptions. Si le réchauffement climatique est la norme, c'est difficile d'attribuer tous les phénomènes dits exceptionnel en étant la nouvelle, je sais pas si je me fais comprendre, en étant la norme.
Si, si.
C'est ça qui est un petit peu, voilà.
J'espère que les journalistes vous écoutent bien parce que
des fois
ils interprètent aussi.
Mais c'est vrai que cette année on a eu vraiment des températures records, hein, quand on voit que ce soit en Afrique du Nord ou partout. Assez incroyable. Alors, c'est dû à quoi?
Le changement climatique, c'est une chose. Et puis cette année, on a aussi un phénomène supplémentaire qui est aussi un élément d'explication de ce qui s'est passé à Acapulco. C'est qu'il y a le phénomène El Niño, qui est un réchauffement naturel qui se passe tous les X années dans le Pacifique Sud, au large des côtes d'Amérique du Sud. C'est un phénomène qui a toujours existé, El Niño et son pendant, la Niña. Et c'est vrai que pendant El Niño, les conséquences, c'est que dans la région du golfe, de l'ouest du Mexique, etc., qui sont plutôt baignés par des courants froids qui descendent de l'Amérique du Nord, avec El Niño, c'est exceptionnellement chaud là. Donc ce réservoir de chaleur a certainement servi à amplifier justement le phénomène. Donc ne pas confondre des phénomènes naturels qui ont toujours existé et qui ont des incidences. Le réchauffement, nous, on l'observe surtout sur les températures, effectivement. Ben, vous voyez, on est bientôt en novembre. On n'a toujours pas connu de coup de froid cet automne. D'ailleurs, les couleurs sont toujours plutôt vertes. On n'est pas encore passé. Ma femme qui me dit j'aimerais qu'on aille marcher en montagne pour voir les couleurs. Il n'y a pas encore. Alors peut-être ces prochains jours, on verra. Mais pour l'heure, c'est vrai qu'on est, on est toujours dans cette configuration plutôt d'air chaud. Et pas encore de descente d'air froid. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces prochaines semaines ou ces prochains mois, on ne va pas pouvoir avoir un méchant coup de froid. Et peut-être, qui sait, peut-être même battre le record de froid de la Brévine en pleine phase de réchauffement climatique. Ça ne va pas remettre en question le réchauffement climatique, mais ça prouve simplement qu'en météo, il y a des exceptions et c'est surtout ces exceptions qui marquent les esprits.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Et on parle de météo ce matin, et puis on a Navin qui s'est réveillé.
Neven, avec nous. Bonjour Neven.
Qui s'est réveillé à l'heure.
Bonjour.
Est-ce que vous faites partie de ces gens dont la météo influence sur votre morale?
Non, ça va.
Ça va. Quelle est votre saison préférée?
Moi, j'aime bien ce temps qui est un peu qui a de l'air.
Vous aimez quand il y a du vent, vous?
J'aime bien quand il y a un peu d'air, ça fait du bien.
D'accord. Frédéric Glacé, c'est quoi vous votre saison préférée?
Moi, l'été.
Ouais, moi aussi, je suis plutôt été. Donc, vous êtes prêt à jouer avec nous, mon cher Neven? Voici le jeu que vous avez choisi.
L'air de jeu. Des paroles, une chanson.
Alors, je vais vous lire les paroles d'une chanson. Il faudra m'en donner le titre et vous jouer pour une carte Landy d'une valeur de 20 francs. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Alors, c'est une chose qu'on n'aura jamais, Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau. Chanson qui date de 1972. La musique a été écrite par Patrick Juvet. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est une chose qu'on n'aura jamais.
Et là, c'est facile.
C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau.
Alors, Neven.
De toute façon,
ça me dit quelque chose.
Pas grand-chose. Hein,
vous avez aucune idée de l'artiste ni du titre ?
C'est Patrick Juvet.
Non, c'est Patrick Juvet qui a écrit la musique. Non, ça ne vous dit rien ?
Clo-Clo.
Mais c'était Claude François, le fameux Lundi au soleil.
Lundi au soleil, ouais.
Voilà, ouais. C'était ça qu'il fallait trouver. Merci d'avoir participé à ce jeu. On vous souhaite une bonne suite de dimanche et à une prochaine fois, Neven. Au revoir.
Ouais,
merci.
Au revoir.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Quand il pleut ou quand on a un petit peu un temps gris, on dit c'est moche ce temps. Pourquoi est-ce qu'on diabolise comme ça ce temps en disant qu'il est moche ?
Bah, c'est une spécialité qu'on retrouve en tout cas en Europe occidentale. Mauvais temps, mal tempo en italien, schlechtes Wetter en allemand, c'est associé vraiment à la pluie ou des orages violents, etc. Je comprends qu'on puisse dire du mauvais temps quand on a un orage violent, etc. Mais maintenant, quand on sort d'un été extrêmement chaud, extrêmement sec, qu'on sort du mois d'octobre, avant que cette vague perturbée n'arrive, on avait pas la moindre goutte de pluie pendant 2-3 semaines. On a vu des niveaux de cours d'eau comme le Doubs, on en parlait tout à l'heure, hors antenne très très bas. Bah, la question se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à diaboliser la pluie en associant le mauvais temps à la pluie ? Dans certaines régions du monde, comme au Proche-Orient, c'est tout à fait le contraire. Annoncer de la pluie, c'est une bénédiction. Peut-être qu'il faut qu'on change aussi
votre
un
vision.
Petit peu cette vision-là, en disant, ben voilà, il pleut, mais en l'occurrence, les pluies qu'on a depuis quelques jours et qui vont nous accompagner ces prochains jours, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'on a eu assez de journées depuis l'été où on a pu profiter pour aller se balader, et c'est encore le cas encore ce week-end, sans devoir râler dès qu'on a une journée de pluie. La nature en a besoin. Et puis, comme le remplissage des nappes phréatiques, ce qu'on appelle l'année hydrologique, commence déjà en septembre, tout ce qui est pris maintenant sera porté au bilan du printemps, voire de l'été de l'année prochaine. Donc on joue déjà un petit peu notre printemps et notre été prochain avec ce qui se passe maintenant. Donc, d'une fois que je vous ai dit ça, quand vous allez peut-être vous morfondre de voir tous les jours de la pluie la semaine prochaine, dites « Ah, mais ce serait peut-être pas une mauvaise chose. »
On fait des réserves pour l'année
prochaine.
Voilà, c'est ça.
Mais oui, c'est des réserves. En prévision du printemps ou de l'été, il s'avère qu'ils sont à nouveau chauds et très secs, comme on a plutôt l'habitude de les connaître actuellement.
Et justement, ce manque de neige, par exemple, durant l'hiver, là aussi, ça a des répercussions sur les nappes phréatiques.
Alors, manque de neige, le sujet fait question. Est-ce qu'on a vraiment moins de neige qu'à l'époque ? Puisque, attention à la mémoire sélective avec la neige, puisque quand on va se souvenir de quand il y avait 3 mètres de neige à la Chaux-de-Fonds, ou je ne sais pas où, c'était peut-être une année en particulier, ou peut-être deux, mais qui ont vraiment marqué nos esprits. Alors, effectivement, on a peut-être un petit peu moins de neige à plus basse altitude, mais le constat qu'on fait avec le climat qui se réchauffe, c'est que cette neige, par contre, va fondre beaucoup plus rapidement. Donc, même s'il neigeait autant que par le passé, comme elle fond beaucoup plus vite aussi, le niveau descend très très, enfin la couche descend vite et on a moins cette impression d'hiver avec de longues périodes sans neige. C'est vrai que les stations de ski de l'arc jurassien
depuis quelques années,
voilà, il y a une époque où on pouvait quasiment skier depuis novembre jusqu'en mars sans trop avec tout. Il y a toujours un ou deux gros redoux au milieu, mais là on est plutôt sur un ski d'opportunisme quelque part en disant voilà, il est tombé de la neige, un petit coup de froid, on ouvre pendant une semaine, deux, trois semaines, et puis en attendant la prochaine vague. Mais cela étant, ça dépend tellement des conditions météo du moment que même si le climat se réchauffe et qu'on dit la limite de la neige sera toujours de plus en plus élevée, qu'il n'y a plus d'avenir pour les stations du Jura, je pense que la variabilité météorologique fait qu'on aura toujours le potentiel d'avoir entre guillemets, de très beaux hivers ou de très belles périodes pour aller skier dans le Jura. Ça, dans tous les cas de figure. Et ce sera peut-être le cas déjà cet hiver qui vient.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
On a Michael avec nous de la Chaux-de-Fonds. Bonjour Michael.
Bonjour.
Vous avez changé l'heure de la pendule de la cuisine ?
Oui, j'ai changé là déjà.
Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? L'heure d'hiver ou l'heure d'été ?
Je ne sais pas trop. Moi, je dirais peut-être qu'il faudrait mettre au milieu, je ne sais pas.
Changer d'une demi-heure, puis y rester.
Voilà. Moi, j'aime bien cette heure d'été, finalement. C'est vrai qu'en été, on peut profiter. Votre saison préférée à vous, Michael, c'est laquelle ?
Avant, c'était l'hiver, mais il n'y a plus assez de neige. Alors, c'est plutôt l'été, maintenant.
Ouais, puis en été, c'est vrai que ça, c'est agréable. Hein, quand
mais l'automne,
chaud.
C'est magnifique.
Oui, l'automne avec ses
senteurs,
couleurs. Oui, ça
le
aussi.
Retour de la chasse, toutes ces bonnes choses.
Finalement, toutes les saisons ont du bon. On va passer à notre jeu qui est celui-ci.
L'air de jeu, culture générale.
Alors, je vais vous poser des questions de culture générale sur la météo. Il faudra me donner en tout cas 3 bonnes réponses pour une carte cadeau de chez Landy, 30 francs et 20 francs si vous me donnez 2 bonnes réponses. Vous êtes prêts ?
Oui.
Quels nuages blancs sont signes de beau temps ? Vite.
Les stratus.
Quelle lumière intense et brève est provoquée par une décharge électrique pendant un orage porte le même nom qu'une pâtisserie ? Comment se nomme la zone de haute pression atmosphérique souvent associée à un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé ? On parle souvent de celui des Açores. Je ne sais pas si ça vous aide.
Je sais pas. Non.
Alors, les nuages qu'on dit hein, de beau temps, ce sont les cumulus.
Sa réponse est juste.
Aussi, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces fameux cumulus ?
Alors bon, c'est des petits nuages blancs, mais quand il parle de stratus, on peut accorder la bonne réponse, parce que le stratus est aussi un nuage entre guillemets, de beau temps. Alors, pas partout quand on est dessous, mais quand on est dessus, c'est justement le signe d'un temps très stable, notamment en hiver, où vous avez peut-être ici sur la région un stratus qui recouvre le littoral, et au-dessus, il fait grand beau. Donc, le stratus est aussi associé à un nuage de beau temps, dans le sens un nuage anticyclonique, etc.
Est-ce que c'est la même chose que le brouillard, le stratus, ou pas du tout ?
Alors, pour faire très simple, le stratus, c'est le nom du nuage, et le brouillard, c'est plus de savoir où on se situe par rapport au nuage. Le brouillard, c'est quand on est dedans, en fait. On peut être dans le brouillard, mais dans un cumulus, dans un cumulonimbus, dans n'importe quel... Quand vous êtes en avion, vous pouvez être dans le brouillard. À un moment donné, quand vous traversez la couche nuageuse, vous êtes dedans, on est dans le brouillard, c'est quand on est dans le nuage. Voilà.
Et l'éclair, hein, bien évidemment, hein, cette lumière intense. Et puis alors justement, l'anticyclone, là, cette zone de haute pression, qu'est-ce qu'on peut dire de l'anticyclone ? C'est vrai qu'on connaît beaucoup celui des Açores. Hein.
On connaît beaucoup l'anticyclone des Açores parce que c'est vrai qu'en général, quand il est positionné comme ça, on a un temps plutôt favorable chez nous. Quand on est au printemps ou en été, effectivement, c'est du soleil pour tout le monde. Mais quand on a un anticyclone des Açores qui est positionné là où il est habituellement, en hiver, en général, ça s'accompagne justement aussi de... je parle lancer le débat entre le haut et le bas dans le canton de Neuchâtel. Mais c'est un temps qui favorise plutôt le haut par rapport au bas. Quoi. Voilà, parce qu'on a un temps stable et donc une inversion de température et donc la potentialité d'avoir du brouillard ou une couche de brouillard en bas et puis d'avoir du grand soleil en haut. Quoi.
Bon dimanche, Michael, et on
Merci,
vous dit à une
bon
prochaine
dimanche,
fois. Merci, au revoir.
Envie de prendre l'air, l'air de jeu.
À 11h25, on continue à parler justement de la météo avec Frédéric Glacé.
Et oui, et c'est vrai que, comme on le disait, hein, en automne, il y a de jolies couleurs. Hein, les arbres prennent des tons bruns, rouges et jaunes. Et puis, en hiver, quoi qu'on aussi on le voit en été, le ciel, lui, prend de magnifiques couleurs. Comme cette photo qui est derrière nous, ce ciel avec ses tons roses. C'est dû à quoi ? Est-ce qu'il y a un phénomène que l'on peut expliquer pour avoir ces belles couleurs ?
Alors, ce n'est pas un phénomène météorologique à proprement parler, mais simplement un phénomène qui est en lien avec l'angle d'incidence des rayons du soleil et des nuages qui sont présents. Quoi. Chaque type de nuage va avoir La lumière va passer de manière différente selon le type de nuage. Sur l'exemple de cette photo, on est sur des nuages type cirrus, donc nuages de haute altitude, assez fibreux, filamenteux, donc ça va donner ce ciel qui est comme ça. Si on a d'autres types de nuages, comme les ciels moutonneux, moutonnés, ça va être d'autres couleurs, peut-être plus impressionnantes aussi. Donc, pour avoir ces beaux ciels le matin ou le soir, bah déjà, il faut se situer au bon endroit. C'est vrai que le soir, comme le soleil se couche à l'ouest, c'est vers l'ouest qu'on va pouvoir observer ces phénomènes-là, alors que le matin, c'est vers l'est. Il faut avoir des nuages, mais ce phénomène-là se produit à tout moment de l'année. Il y a pas, c'est pas spécialement en hiver ou en particulier, ça peut se produire tout au long de l'année. Ouais.
Mais par contre, on dit souvent dans les hauteurs, principalement sur le fond, quand on a le ciel qui est rougeâtre, sans nuages, ça veut dire qu'il fera beau le lendemain.
Rouge du soir, espoir, rouge du matin, chagrin, oui, parce que enfin, ça marche seulement dans le cas où le courant dominant vient de l'ouest. Parce que justement, rouge du soir, espoir, comme le soir, on voit ce qui vient de l'ouest, justement, ça, c'est le signe qu'il n'y a pas de perturbation en chemin. Tandis que quand on dit rouge du matin, chagrin, c'est que comme le soleil se lève à l'est, ce qui est de l'est est déjà, entre guillemets, passé. Et s'il y a ce phénomène qui arrive, c'est que la perturbation peut venir. C'est justement simplement lié justement au courant dominant. Parce qu'en général, les perturbations qui viennent chez nous arrivent
par l'ouest.
Par l'ouest, sud-ouest, etc. Quoi. Donc ça ne marche pas non plus dans tous les cas.
Il y a aussi les nuages, ils ont certaines fois des formes. Et il y a plein de noms de nuages. Est-ce que vous aimez regarder les nuages, Frédéric Glacet ?
Ah oui, oui. Non, j'adore ça. Je pense que ça fait partie aussi de la passion. Je dis, le plus bel écran de télévision qu'on a, c'est quand même le ciel. Chaque jour, un scénario différent, avec un film différent. Moi, je trouve ça passionnant, quoi. C'est vrai que... Et justement, les nuages... qui sont parfois diabolisés, sont au contraire la possibilité de pouvoir voir de très très beaux phénomènes, quoi. Et c'est magnifique à observer. Alors c'est vrai qu'en automne, notamment quand vous avez en plus un environnement de végétal ou de nature qui est très jaune, un ciel très rouge, ça fait des contrastes qui sont très très marqués. Le contraste peut être aussi bien marqué avec la neige en hiver, quand on a un paysage totalement blanc et enneigé. Donc chaque saison a ses particularités en fonction des couleurs dominantes. L'automne plutôt jaune, l'été plutôt vert, l'hiver plutôt blanc, ben vous mettez ça avec le type de nuage que vous avez dans le ciel et puis ça, on aurait quatre fois le même type de nuage pris séparément à chaque saison, on aurait quatre ambiances différentes alors qu'on a le même nuage qui domine.
Et puis les formes des fois. Hein.
Sur la photo là qu'on voit que vous avez prise vous Claire, on voit là pourquoi les nuages ça vient plus gris en fait, ce mélange entre le blanc et le gris, c'est la concentration de l'humidité.
C'est l'épaisseur. À la base, c'est l'épaisseur du nuage.
Donc là, moins bon, là.
Ouais, moins bon. C'est juste qu'il est un peu plus épais. Ça ne veut pas forcément dire que ça annonce de la pluie. Mais grosso modo, effectivement, plus le nuage est épais, et moins le soleil arrivera à le traverser. Et donc, du coup, plus il apparaîtra sous cette forme-là.
Il ne veut pas lâcher de gouttes, celui-là.
Ouais, alors, celui-là, en particulier, apparemment pas. Si vous êtes dans ce nuage-là, dans le brouillard, il y aura quand même peut-être une petite précipitation aussi. De toute façon, mais c'est vrai que c'est pas un nuage qui est menaçant. Après, voilà. Le côté sombre peut aussi provenir du fait de la distance que vous avez par rapport aux nuages. On a des nuages bas qui a pas type un stratus qui peut paraître menaçant, mais parce que la couche ou la base du nuage est peut-être seulement 100 mètres au-dessus de notre tête, quoi. Mais ça ne veut pas dire que ce stratus-là va faire 500 mètres ou 1000 ou 3000 mètres ou 10 000 mètres d'épaisseur comme un nuage d'orage.
L'air de jeu jusqu'à midi avec Claire et Florian.
Et puis on a aussi Corinne avec nous qui a joué. Bonjour Corinne.
Bonjour l'équipe.
Bonjour Corinne, comment allez-vous ?
Ça va, je vous remercie, vous ?
Mais oui, vous passez un bon moment avec nous ?
Ben parfait, là, j'écoute vos RTN depuis ce matin de bonne heure, là, et puis je suis ravie, là,
Vous avez appris plein de choses sur les nuages.
Comment ?
Vous avez appris plein de choses sur les nuages ?
Oui, en plus.
Et puis, est-ce que vous avez une saison préférée, Corinne ?
Alors moi, ça serait plutôt le printemps ou l'automne, parce que tout ce qui est soleil, la canicule, l'hiver, il fait trop froid. Donc ça serait plutôt le printemps, quand les petites fleurs, elles commencent à pousser gentiment. Et puis l'automne, parce que vu les couleurs automnales, mais bon, c'est vrai que cette année, c'est un peu spécial dans le sens où on n'a pas eu tellement des feuilles jaunes, rouges, oranges. C'est un peu spécial cette année.
Ça, c'est vrai que, hein, comme on l'a dit en début d'émission, hein, Frédéric, tout est vert encore. Les champs sont incroyablement verts, les arbres aussi, mais vous nous l'avez dit, ça viendra. Hein.
Ça viendra, mais.
Les arbres souffrent.
On risque de passer de l'été à l'hiver d'un coup.
Oui, ça va être
sans
dur.
Automne.
Vous avez choisi un jeu et c'est celui-ci, Corinne.
L'air de jeu.
Oui.
Le blind test.
Le blind test. Il faudra me donner 3 bonnes réponses pour empocher une carte cadeau Landy de 30 francs. Si vous me donnez 2 bonnes réponses, c'est une carte de 20 francs. Vous êtes prête ?
Je suis prête, d'accord.
Alors écoutez bien, ouvrez bien grandes vos oreilles. Quel est le titre de cette chanson sortie en 2000 ?
J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
Joli duo.
Joli duo entre...
Oui mais, oui, mais c'est quoi le titre de la chanson?
Alors,
je l'ai suivi.
On en a parlé ce matin.
Bon, on est obligé de passer au deuxième extrait. Hein.
Ouais,
À quelle chanteuse doit-on ce titre datant de 1997?
C'est le soleil.
Elle a dit.
La neige au Sahara, Angoun. Yes.
Pas, hein.
Alors, c'est votre premier point. Attention, c'est avec ce dernier extrait que tout va se jouer. Est-ce que vous allez remporter cette carte cadeau de 20 francs, hein, puisque vous n'avez pas trouvé le premier?
Non.
Alors, quel chanteur a interprété en 2008 ce titre?
Il est monstre grand.
Le titre, c'est donc Rain et son vrai nom de famille. Heureusement qu'il a pris un pseudo, hein, parce que pour les animateurs radio, quand il faut l'annoncer, alors c'est Michael Holbrook Pennyman.
Mika.
Voilà.
Il a chanté hier soir à la finale de la Coupe du Monde de rugby.
Oui, exactement.
Voilà.
J'ai regardé le début, mais pas le rugby en lui-même. Mais j'ai voulu regarder. C'était magnifique l'entrée, là, enfin, Mika avec toute.
Voilà. Et d'ailleurs, Mika qui va reprendre pour la nouvelle saison de The Voice son siège de coach. Il fera à nouveau partie du jury. Voilà. Pour la petite anecdote. Eh bien, bravo, c'est une carte cadeau de 20 francs que vous remportez, Corinne.
Ben parfait, j'aurais bien voulu répondre à la première question, mais j'ai...
Alors, ça ne vous vient pas?
Non, dis-moi.
Je vous ai fait
et
le bruit.
Je
hein.
suivi
sous le vent. Vous n'avez pas entendu.
Hein.
Ah,
sous
d'accord.
le vent. Voilà, c'était le titre de la chanson qu'il fallait découvrir.
D'accord, oui, très bien. Bon, ben, je la connais par cœur, mais là, j'avais un blanc au niveau du titre.
Eh ben, écoutez, c'est pas grave, vous repartez quand même avec cette carte cadeau et on vous souhaite un tout bon dimanche, ma chère Corinne. À bientôt.
Eh ben, pareillement à vous, plein de soleil dans le cœur, prenez
oui.
soin de vous.
Oui, vous aussi, merci.
Au revoir, merci, bonne journée, bye bye.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Claire, Frédéric a eu du boulot parce que vous étiez énormément nombreux à nous envoyer des photos ce matin. Merci en tout cas à tous celles et ceux qui nous ont envoyé des photos.
On aura une belle galerie photo à vous proposer cet après-midi sur rtn.ch avec toutes les photos que vous nous avez envoyées. Et c'est celle de Marie qui a eu le coup de cœur. Ouais, le waouh. Hein. Alors Marie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire où a été prise cette photo et qu'est-ce qu'on y voit?
Alors, j'ai pris cette photo depuis ma terrasse et on voit une espèce de barre de nuages, presque comme une cascade en fait, qui fonce sur nous.
Mais ça fait un peu comme un tsunami, je trouve.
Ouais, hein, ça, ouais, on croirait un peu devant la mer, quoi.
Ouais,
ouais.
Ouais, ouais.
Ça, il dit, j'arrive, rentrez vos tomates, Marie, j'arrive.
Voilà, exactement. Il a fallu vite tout rentrer quand j'ai vu cette barre arriver, là, ça, oulala, il faut tout rentrer.
Alors, Frédéric, franchement, cette photo, elle vous a émerveillé, hein, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce que vous voyez avec cette photo-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux nuage?
Alors, déjà, ce nuage, il a un nom. Ça s'appelle un arcus. Arcus, parce qu'il est souvent en forme d'arc. Et c'est vrai que c'est cette barre qui témoigne de l'arrivée du nuage d'orage, de l'orage en particulier. Et cette forme assez particulière est généralement la limite entre l'air chaud qui monte dans le nuage d'orage et l'air froid qui descend à l'arrière. Donc, quand on voit arriver ce genre de choses, effectivement, le seul mot d'ordre, c'est tous à l'abri. Parce qu'en général, c'est très très calme avant qu'il arrive.
C'est le calme avant la tempête,
c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le calme avant la tempête. Il y a quasiment peu ou pas de vent parce qu'on est encore dans les ascendances, dans le nuage. Et puis tout d'un coup, dès que ce mur s'approche, sous le mur ou juste à l'arrière, ensuite c'est tous les phénomènes orageux les plus violents, c'est-à-dire les rafales de vent, les micro-rafales, tel qu'on a connu à la Chaux-de-Fonds au mois de juillet. Ça peut être de la grêle, de fortes pluies, etc. Donc, c'est vraiment la transition entre la partie encore calme et le début de la tempête. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que le nuage nous fonce droit dessus. La base de ce nuage est pas très haute, pas très élevé par rapport au sol. Voilà. Donc, c'est souvent aussi dans ce genre de nuages-là qu'on peut retrouver, alors, chez nous un peu moins, les phénomènes type tornades ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vrai que il y a eu énormément de photos, je crois plus d'une centaine de photos qui étaient toutes magnifiques. Mais celle-là, pour moi, voilà,
c'est l'excitation du météorologue.
Non, mais voilà. Ça représente forcément une situation météo.
Où ça va bouger.
En sachant qu'au moment où madame nous dira, quand elle prend la photo, il y a un côté impressionnant en disant « mais qu'est-ce qui nous arrive dessus ?» Et puis quand je vois cette photo, je pense aussi au moment de la photo d'impression, mais j'imagine aussi que 10 minutes après ou 5 minutes après, ça devait être différent.
Alors, Marie, vous nous avez raconté, vous avez rentré vos tomates, puis après, finalement, rien, vous avez ressorti vos tomates, puis après, du coup, ça arrivait.
Ben voilà, disons qu'on attendait l'orage un peu plus tôt dans la journée, donc il venait pas, donc j'avais ressorti mes tomates, et finalement, j'ai vu ce nuage arriver, je me dis, oulala, il faut vite tout rentrer. Donc, j'ai tout rentré, j'ai fait la photo, j'ai reposé mon appel, et on est en plein dedans. C'est arrivé à une vitesse phénoménale. Et puis après, on voyait plus. Je voyais même pas le bord de la terrasse, en fait, après. C'était impressionnant.
Ouais. Et il faut savoir que cet orage-là, ce mur de nuages, cet arcus, était passé à peu près une demi-heure plus tôt dans la région du bassin lémanique, là où je vis. Et chez nous, on a eu, notamment dans ma commune, des rafales à 140 km/h, qui était un record. C'était avant la Chaux-de-Fonds à 213 km/h, avec, dans mon village, une vingtaine d'arbres qui ont été couchés, quoi, sur cette cellule-là. C'est vrai que c'était un jour assez particulier, qui était en alerte maximale sur le risque orageux.
C'était quoi, au mois de juin ?
22 juin, sauf erreur. Et oui, on a attendu, durant une grande partie de la journée, que ces orages se manifestent. À un moment donné, on pensait qu'il n'y en aurait plus. Et tout d'un coup, il y a une cellule qui se forme du côté d'Annecy. Et c'est cette cellule-là qui, ensuite, a traversé le bassin lémanique, était remontée ensuite en direction de Neuchâtel.
Mais quels sont les outils que vous avez pour voir justement ça ? C'est les images satellites en direct ou c'est,
images radar. On a aussi, nous, au sein de notre groupe, Meteonews appartient à un groupe autrichien qui s'appelle Obimet. On a le numéro 1 mondial de détection de la foudre en temps réel au sein de notre groupe. Donc, on a les impacts de foudre en temps réel et en trois dimensions. Donc,
c'est des antennes qui sont disposées sur des montagnes.
C'est des capteurs, en fait. Des capteurs qui sont disposés un petit peu partout. Et on peut suivre quasiment un orage en temps réel avec les trajectoires potentielles des cellules, l'intensité des cellules. Dans ce genre de situation-là, un orage d'assez grande ampleur, on peut le voir, on peut bien voir dans quelle direction il va se déplacer.
Eh bien, merci d'avoir joué avec nous, Marie. On vous souhaite une toute belle journée. Un bon dimanche.
Merci.
Au revoir.
L'air de jeu, avec Claire et Florian.
On l'attend, hein, ce sont les tendances pour ces prochains mois, hein, pour cette fin d'année et puis pour le début de l'année 2024. C'est un peu comme dans la mode, hein, c'est quoi les tendances, Frédéric Glacé?
Alors, pour les tendances, il faut quand même dire que d'abord, j'ai un collègue à Météo News qui le fait. Il le fait avec sérieux, mais elles ne sont pas d'une très grande fiabilité. 60-70% de fiabilité, c'est le maximum sous nos latitudes pour ce genre de tendance. Voilà. Deuxième chose, il prend le scénario médian, c'est-à-dire, et non pas le scénario extrême qui sort en général 2 mois, 3 mois avant l'arrivée de l'hiver ou de l'été pour faire le buzz. C'est pas du tout ça. Alors, que nous disent les tendances? Déjà, en plus, troisième chose, pardon, les tendances sont faites sur la base de 2 paramètres, puis on regarde sur plusieurs mois. La température, est-ce qu'on a une anomalie de température par rapport à la normale? Et les précipitations, est-ce qu'on a une anomalie positive ou négative sur les précipitations? Ce sont les 2 seuls paramètres qui sont étudiés ou analysés. Globalement, c'est une tendance ne va pas vous dire que le 24 décembre ou dans la nuit du 24 au 25, il va neiger. Voilà. S'il y aura de la neige à Noël. Voilà. Donc, ces tendances nous montrent, maintenant que j'ai donné les... que pour le mois de décembre, on est plutôt sur un mois de décembre humide, mais doux.
Donc sans neige.
Non, attention, humide mais doux. Ça ne veut pas dire que parce que c'est doux, il n'y a pas de neige. Il peut y avoir de la neige aussi dans un temps doux. On a d'ailleurs plus de neige dans un temps plutôt doux que dans un temps extrêmement froid, qui est forcément continental, où il n'y a pas du tout de précipitation. Et ensuite, et alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que janvier et février seraient humides aussi, mais plus froids. Donc avec des potentialités de neige qui sont bien présentes pour janvier et février. Et puis, est-ce qu'on a mars? Mars, ce serait plutôt dans la norme, il n'y a pas de phénomène tangible qui se profile. Donc ce n'est pas parce que là, on traîne l'été depuis des semaines et des semaines et des semaines que ça veut dire qu'on va continuer sur cette tendance encore en novembre. Bon, là, ce sera perturbé en tout cas pour le début du mois, mais ça peut vite tourner. Et puis, effectivement, on peut avoir sur ces tendances, en tout cas là, une anomalie de température plutôt fraîche et conjointement à ça, des précipitations qui seraient plus importantes que la normale. Donc, qui pourraient effectivement nous donner davantage de situations qui peuvent donner de la neige à relativement basse altitude.
Merci. Et puis, on vous dit à une prochaine fois.
Mais oui.
Volontiers.